À un moment, dans un des textes que vous avez écrit, vous dites que cette nouvelle forme de capitalisme, d'oligopole financiarisé, est l'ennemi de la démocratie. J'aimerais savoir en quoi.
Oui. Il est l'ennemi de la démocratie d'une façon très, très, très sérieuse et profonde. Dans ce sens que cette rente de monopole n'est possible que si le pouvoir de ces oligopoles s'exerce d'une façon incontestée, non pas seulement dans la gestion économique de toutes les activités économiques aux échelles nationales et mondiales, mais également que le système politique soit à son service, c'est-à-dire que le système politique renonce à l'intervention dans la gestion de l'économie et l'abandonne au nom des soi-disant marchés, de la liberté des marchés, à ces oligopoles. Or, qu'est-ce que c'est qu'un système démocratique ? Un système démocratique, c'est un système dans lequel le choix, à travers une élection et un parlement, disons, le choix comporte des alternatives différentes. Et que ces alternatives peuvent être mises en œuvre à travers le pouvoir politique régulant la gestion du système économique. Si on a renoncé à la régulation du système économique, au profit des oligopoles qui ont le monopole de cette gestion, alors le vote n'a plus de sens. Et ça, dans les pays démocratiques occidentaux, les électeurs le savent bien. Vous votez, vous pouvez voter à peu près, vous votez librement, et les élections sont relativement honnêtes, elles ne sont pas falsifiées comme en Égypte ou je ne sais où. Vous pouvez voter blanc, bleu, réactionnaire, conservateur, vous pouvez voter, je ne dirais pas rouge, mais je dirais rose, socialiste, peut-être même rouge, mais vous serez une toute petite minorité, peu importe. Mais quel que soit le gouvernement qui vient à la suite de ces élections, sa première phrase sera « Nous n'y pouvons rien, c'est le marché qui décide ». Alors pourquoi voter ? D'ailleurs, aux États-Unis, qui sont le pays démocratique le plus avancé dans le capitalisme des oligopoles, regardez les élections, même les élections présidentielles, qui sont considérées comme les élections majeures aux États-Unis. La participation aux élections est minoritaire, elle est moins de 50%. Elle est rarement au-dessus de 50%. Et la moitié des électeurs qui ne votent pas, c'est pas la moitié riche, c'est la moitié pauvre. Ils savent très bien que, démocrate ou républicain, c'est la même chose. D'ailleurs, Nyerere avait dit à ce sujet, « Nous, pays pauvres, nous avons un parti unique. Vous, vous êtes pays riche, vous avez deux partis uniques. Et vous avez le choix, l'alternance, entre deux partis qui feront la même chose. » Donc, c'est profondément antidémocratique. Et ce choix antidémocratique, il est avoué d'une façon naïve parfois quand on dit que les sociétés occidentales souffrent de trop de démocratie. Que ces élections, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces élections sont inutiles. Et l'idéal serait les élections du type au Parlement européen. Élection pour un Parlement qui n'a pas de pouvoir. C'est difficile à faire passer sous une forme aussi brutale. Mais regardez comment fonctionne l'Union européenne. C'est tout à fait typique du déni de démocratie. Si vous votez mal pour les oligopoles, eh bien on vous fait revoter autant de fois jusqu'à ce que vous votiez bien. Ou bien on ne tient pas compte de votre vote. Les Français ont voté non à la Constitution. La Constitution, par les accords de Lisbonne, est mise en œuvre. Ces accords de Lisbonne ont été rejetés par l'Irlande, on va faire revoter l'Irlande 25 fois s'il le faut, jusqu'à ce qu'elle vote oui. Alors, si c'est ça la conception de la démocratie, il n'y a plus de démocratie. La démocratie est en recul, elle n'avance pas. Et là, je prends les pays capitalistes développés, dits démocratiques. Cette pratique est en régression. Et cette régression, elle se manifeste dans la langue, dans le langage. On parle de problèmes de société, problèmes sociétaux. On ne parle plus de problèmes sociaux. Parce que qui dit problèmes sociaux, dit problèmes de la majorité, des travailleurs, exploités, dominés, précarisés, voire chômeurs ou sans domicile fixe. Ça, c'est les problèmes sociaux. On les marginalise, ces problèmes sociaux, et on met en avant des problèmes dits de société. Comme l'égalité entre les genres, pour reprendre le terme anglais, on dirait les sexes en français, qui n'est pas un faux combat, mais qui n'est pas de même nature. On parle de des problèmes de d'homophobie, etc., etc., etc. Bon, on ne parle plus des prolétaires. Le terme prolétaire a été remplacé par les immigrés. Hein ? Les immigrés, la majorité des immigrés, constituent une bonne partie du prolétariat, effectivement. Mais on ne parle plus des prolétaires, qu'ils soient d'origine locale ou qu'ils soient d'origine ou immigrés ou d'origine immigrée. On a remplacé la question du pouvoir, décidé à travers des élections correctes. On ne parle plus du pouvoir, on parle de la gouvernance, la bonne et la mauvaise gouvernance. On a remplacé le discours d'une culture politique du conflit, c'est-à-dire reconnaissant la diversité des intérêts sociaux, et non pas sociétaux, et le conflit social. On a remplacé ce langage. On parle des partenaires sociaux maintenant, comme si l'exploité et l'exploiteur étaient des partenaires. On parle de la gouvernance, c'est-à-dire, on a remplacé. La gouvernance, elle est nécessairement bonne ou mauvaise. C'est-à-dire le sermon religieux, à la façon américaine, qui remplace le discours politique. Et lorsque M. Sarkozy, et Obama ne dit pas différemment, parle de « il faudrait que les capitalistes soient honnêtes », Marx avait dit en son temps « le capitaliste n'existe pas, il est l'incarnation du capital, il ne peut pas se comporter autrement que conformément aux exigences de la rentabilité financière et économique du capital. Il n'est pas un monsieur qui est bon ou méchant, il est un monsieur qui agit conformément à la logique du capital. » Alors, ça c'est un recul de la démocratie. Mais à l'échelle mondiale, c'est pire. À l'échelle mondiale, c'est pire pourquoi ? Parce que le capital, c'est à l'origine de cette polarisation à l'échelle mondiale, sans commune mesure avec ce que toute l'humanité avait connu au cours de ces 3000 ou 30 000 ou 300 000 ans qui ont précédé le capitalisme. Vers 1800, le rapport entre les plus riches et les plus pauvres des peuples, disons, du monde, était de 1 à 2 au maximum. Et même Béroche, l'économiste, très bon économiste, décédé, l'estimait à 1 et 1,3. Et les plus avancés n'étaient pas l'Europe à l'époque, c'était la Chine, hein, qui avait un PIB per capita jusqu'en 1820, supérieur à la Grande-Bretagne et supérieur à la moyenne européenne, bien entendu. Bon, on est passé de cette très grande proximité dans les niveaux de développement des peuples du monde à un rapport qui va de 1 à 20, 1 à 60 à l'heure actuelle. 1 à 20 entre les pays opulents et les pays dits à revenus moyens, ce que l'on appelle aujourd'hui les pays émergents, et 1 à 60 entre les pays opulents et les pays dits marginalisés, c'est-à-dire les plus paupérisés de la planète, notamment une bonne partie des pays africains. Ça, c'est une paupérisation à l'échelle mondiale gigantesque. Le système ne peut se perpétuer qu'à la condition que la minorité des peuples, nations, sociétés, je préfère dire, du Nord, 15%, aient accès à la presque totalité des ressources naturelles de la planète et l'interdisent cet accès. Alors là, ça implique justement quelque chose qui est tout à fait antidémocratique par essence, le contrôle militaire. Vous ne pouvez pas priver les Chinois, les Indiens, les Arabes, les gens du Sud-Est asiatique, les Africains, les Latino-Américains, d'avoir accès pour faire une utilisation bonne ou mauvaise, analogue à celle des Occidentaux, de leurs ressources naturelles, sans avoir le contrôle militaire de la planète. Il y a 6000 bases militaires américaines d'intervention à travers le monde sur la planète. 6000 bases militaires. Et l'OTAN est devenue... L'OTAN, c'est quoi ? L'OTAN, c'est l'instrument des États-Unis, hein. Ce sont les alliés, ce que j'appelle les alliés subalternes des États-Unis dans les interventions militaires décidées par les États-Unis. Ce contrôle militaire de la planète, c'est par nature la négation des droits démocratiques des peuples. Comment peut-on parler de démocratie même en Irak ou en Afghanistan ou dans les territoires occupés de la Palestine ? Alors, c'est donc l'option militarisation de la globalisation, pour utiliser ce terme de franglais, on dirait en français mondialisation, sont indissociables. Mondialisation égale militarisation, parce que cette mondialisation ne peut fonctionner telle qu'elle est que si les sociétés de la triade conservent l'exclusivité de l'accès aux ressources naturelles de l'ensemble de la planète. D'où la guerre du Nord contre le Sud. L'intervention des États-Unis au Moyen-Orient, directement en Afghanistan et en Irak, indirectement à travers leur allié israélien en Palestine, et à travers la Palestine, la menace pour le pays arabe avoisinant, la menace contre l'Iran, sous prétexte de développement de l'industrie nucléaire en Iran, toutes ces interventions sont la guerre du Nord contre le Sud, qui a déjà commencé. Et on l'a dit à l'époque, l'objectif lointain, ce n'est pas l'Irak, c'est la Chine. Et peut-être même la Russie, si elle sort du tunnel dans lequel elle s'était engagée, elle sort de ce tunnel. Bon. Alors, nous avons un système qui est un système, le système des pouvoirs en place à travers le monde, et je conclurai sur cette phrase, est parfaitement antidémocratique. Il est, un, oligarchie. On parle beaucoup dans la presse occidentale de l'oligarchie russe. C'est une pâle copie de l'oligarchie réelle des États-Unis, de l'Europe et du Japon. Là, il y a véritablement oligarchie. Et cette oligarchie contrôle non pas seulement l'économie des États-Unis, de l'Europe et du Japon, mais l'économie mondiale. Et elle ne contrôle pas seulement la gestion économique, elle contrôle le pouvoir politique, finalement, dans la triade en question. Là, on a une véritable oligarchie. En Russie, nous avons une oligarchie statocratie. Et l'État tente de contrôler l'oligarchie, ce qu'il ne fait pas. En Occident, quand on parle de nationalisation d'une banque, on veut dire donner des milliards à une banque privée qui reste privée, de l'argent public à une banque privée qui reste privée. Et c'est-à-dire qu'on confie cet argent à la gestion des oligopoles. Le plan de secours aux banques en difficulté n'a pas été un plan d'État, c'est un plan des oligopoles, des banques elles-mêmes, au secours desquelles l'État est venu. En Russie, nous avons une oligarchie avec une tentative qui est positive de l'État, même si cet État est fort peu démocratique, de contrôler cette oligarchie. En Chine, nous n'avons pas d'oligarchie. Nous avons une statocratie, c'est-à-dire une classe dirigeante d'État, État-parti. Hein. Et dans le reste du tiers-monde, nous avons des autocraties. Elles n'accèdent pas au niveau d'oligarchie, c'est-à-dire elles ne contrôlent pas leur économie locale, nationale, ou ne le contrôlent que très indirectement. Ce sont les oligarchies de l'Occident, de la triade, qui les contrôlent, et elles les contrôlent à travers des autocraties. Ces autocraties peuvent avoir une petite figure, c'est ce que j'appelle la démocratie de basse intensité, comme en Inde, par exemple, ou dans quelques autres pays, ou des autocraties avec des caricatures de démocratie. Alors, ce déclin de la démocratie, et non pas ce renforcement de la démocratie, à mon avis, il est très dangereux, parce que c'est lui qui est à la base des illusions actuelles. L'illusion sociale libérale, on ne parle même plus de social-démocratie, c'est-à-dire qu'on peut rétablir le système tel qu'il était, et moyennant quelques petites mesures de régulation, le contrôler avec efficacité et au profit des classes populaires. Donc, ça c'est une illusion. L'autre illusion, c'est l'illusion bourgeoise nationale. Le cas type le plus avancé, le plus cohérent, c'est celui de la Chine. Nous avons le cas de la Russie, nous avons le cas de l'Inde, du Brésil peut-être, etc., et de quelques autres. C'est aussi une illusion, l'illusion d'un développement national capitaliste, autonome, s'affirmant dans la mondialisation parce qu'il se heurte à l'oligarchie dominante du Nord. Et puis nous avons la troisième forme d'illusion, ce que j'ai appelé les illusions passéistes, c'est-à-dire à défaut d'adhésion à une gestion démocratique de la société, un retour en arrière, soit à une gestion théocratique. Nous avons le cas en Iran, mais nous avons le cas aussi en Arabie Saoudite, et nous avons des mouvements, et pas seulement dans les pays musulmans, les mouvements fondamentalistes chrétiens aux États-Unis, et maintenant avec un pape de ce type chez les catholiques en Europe, sont également des illusions passéistes du même genre. Des ethnocraties. Qu'est-ce que nous avons en Croatie, en Lettonie, pas seulement en Serbie? Ce ne sont pas des démocraties, ce sont des ethnocraties. Bon, alors, voilà la nature des classes dirigeantes aujourd'hui du capitalisme réellement existant. Ce ne sont pas du tout des pouvoirs démocratiques, ce sont des pouvoirs fondamentalement antidémocratiques. Alors, ce système de mondialisation financiarisée est un système qui, pour asseoir le pouvoir économique et politique réel des oligopoles des centres impérialistes ou du centre impérialiste collectif de la triade, pour lui permettre de ponctionner sa rente de monopole, à la fois sur les profits des activités dans les pays capitalistes développés et par son accès exclusif aux ressources naturelles de la planète entière, le pétrole, le gaz, etc., demain l'eau et d'autres choses, a besoin de nier, de réduire à néant les pouvoirs des États, les pouvoirs nationaux, que ce soit dans les centres eux-mêmes ou dans les périphéries dominées. Dans les centres eux-mêmes, le processus est très largement avancé en Europe par la Constitution européenne, qui détruit les pouvoirs réels des États nationaux sans les remplacer par un État européen. Les oligopoles ne veulent pas d'un État européen, ils veulent d'un non-État européen. Ils veulent détruire au nom de l'idéal européen les pouvoirs des États nationaux, mais ils ne les remplacent pas par un pouvoir fédéral ou confédéral réel. J'ai rencontré une fois un ministre luxembourgeois qui avait sur sa serviette « Ma patrie, l'Europe ». Je l'ai interpellé, je lui ai dit « Votre vraie patrie, c'est la banque, ce n'est pas l'Europe ». Il l'a trouvé très mauvaise. C'est ça ce qu'on peut appeler le cosmopolitisme du capital. Le terme n'est pas, est souvent rejeté parce que, hélas, il a été utilisé, comme on le sait, par toutes sortes de fascistes pour faire une fausse attaque contre le capitalisme. Malheureusement, c'est la réalité. Ce système, comme je le disais, il implique également le contrôle, à travers le contrôle militaire de la planète, l'accès exclusif des oligopoles du Nord aux ressources naturelles de la planète entière, et donc il nécessite la négation des pouvoirs nationaux. L'Irak en est l'exemple même. Comment peut-on parler de, même s'il est apparemment élu et si le peuple irakien choisit de jouer cette carte comme étant la moins mauvaise, il s'agit d'un pouvoir colonial, un pouvoir mis en place par la puissance occupante. Hein. Donc, la négation de ces pouvoirs. Il y a des pays qui résistent. La Chine, la Russie, qui tentent de résister. Les grands pays émergents comme l'Inde ou le Brésil ou quelques autres. Hein. Mais la majorité des pays du Sud ne peuvent pas résister ou ne veulent pas résister à cette forme de gestion. Donc, comment faire face à cela? Comment répondre à ce cosmopolitisme des oligopoles? Cosmopolitisme, on peut le prendre sous la forme caricaturale, et je n'aime pas le prendre parce que c'est sous cette forme qu'elle apparaît, sous la forme de la fausse anglicisation du monde. C'est executives, comme on dit en anglais, c'est-à-dire les cadres dirigeants des oligopoles qui se promènent avec des attachés caisses en avion, en première classe, et qui parlent ce mauvais anglais. Comment y répondre? Le seul moyen d'y répondre, c'est l'internationalisme des peuples. C'est-à-dire que la majorité des peuples, les classes travailleuses, lato sensu, je ne parle pas du prolétariat ouvrier exclusivement, la majorité des peuples comprennent que, face à ce cosmopolitisme, ils sont tous les victimes, à des degrés divers, mais tous les victimes. Et je terminerai sur cette phrase, c'est-à-dire qu'ils comprennent que le défi, c'est de sortir du capitalisme en crise et non pas sortir de la crise du capitalisme.